C'est un dieu d'eau, c'est un dieu poisson, c'est un dieu d'eau, c'est un dieu du baptême, c'est un dieu du don de soi, d'osmose physique vis-à-vis de l'autre. Mais c'est aussi un dieu du bien. Ça doit être un dieu du bien parce que l'ancien était un dieu de justice, un dieu de sagesse, et donc les rythmes veulent que cette fois ce soit un dieu du bien. Et en tant que dieu du bien, il sera comme tous les dieux du bien, il sera le fils d'une vierge. Les Gémeaux ont déjà été le fils d'une vierge, tous, parce que tous les Gémeaux sont fils d'une vierge. Romulus et Rémus étaient fils d'une vierge, Amphion et Céto étaient fils d'une vierge, Coster et Pollux étaient fils d'une vierge. Donc ça sera le fils d'une vierge, on le sait. Il sera envoyé par l'archer. Ça sera le Messie, ça sera loin. On le sait. Seulement, ceux qui attendent ce Dieu du bien ne sont pas les mêmes qui attendent ce Dieu d'eau. Ceux qui attendent le Dieu d'eau, on les traite un peu de païens. Ce sont les paganistes, ce sont les hindouistes en Inde. Ce sont des gens qui croient des fables. Quand on raconte que le Bouddha rencontre le cadavre du grand poisson sur le rivage et reconnaît ce corps qu'il a quitté il y a 26 000 ans. Cette admirable légende hindouiste semble monstrueuse et paganiste et incompréhensible pour les bouddhistes, qu'ils attendent qu'un dieu de bien et pas un poisson. Ils n'attendent pas un poisson, bien sûr. Ils attendent un homme qui est né d'une vierge et qui est le frère de tous les hommes et qui sera peut-être mis en croix, puisque la croix, c'est le symbole par excellence des Dioscures et des Gémeaux. Mais vous voyez les deux voies, et il faut que ce soit que cette croix naisse au milieu du Jourdain. Il faut qu'elle naisse au milieu du Jourdain, et c'est tout le secret, en réalité, de l'Évangile. Donc nous savons par là qu'il est possible de concevoir un Dieu qui sera à la fois ce Dieu princier, ce Dieu libertaire, et en même temps ce Dieu fraternel et égalitaire. L'un n'exclut pas l'autre. Notre malheur, c'est de croire qu'il peut exclure l'autre. C'est de ne pas comprendre, de ne pas dépasser nos petits raisonnements humains pour accéder à quelque chose de plus vaste. C'est par exemple de croire que l'égalité, c'est Procuste. Procuste, c'était un cyclope de l'Antiquité, ou légendaire bien sûr, qui recevait des visiteurs, il les accueillait dans sa grotte, mais entrez, mes bons amis. Alors, quand ils étaient là, ils disaient, voyons, viens un peu là. Alors, il les mettait sur son lit, il avait un lit qu'il honorait, qui venait de ses parents. C'était la mesure de toute chose, son lit. Et il prenait le gars, il le mettait sur le lit. Alors, si les jambes dépassaient, il coupait les jambes. Et s'il était trop petit, ben, il les tirait jusqu'à ce qu'il soit dans le lit. Voilà ce que c'est que l'égalité politique. Mais c'est pas l'égalité divine, ça n'a pas été la vertu d'Uranos ou de Mana ou de Lamon quand ils existaient. Ces dieux du vent, ces dieux de l'air répandaient la même vie chez tous, la même passion chez tous. Cette égalité divine, c'est faire non pas couper la tête du chêne pour qu'il soit un roseau, parce qu'à ce moment-là, on a détruit le chêne et on n'a rien fait pour le roseau. Il faut que le roseau soit tout roseau et que le chêne soit tout chêne. C'est ça la véritable égalité. Mais c'est une idée qui n'est jamais venue à Fourier, ni à Marx, ni à Lénine. Donc, il y a une autre voie que la voie de l'athéisme marxiste, par exemple. De la même manière, la fraternité, est-ce que ça veut dire être le frère de quelqu'un? Est-ce que ça veut dire qu'on doit être semblable, comme l'étaient les Gémeaux? Non, certainement pas. Ça signifie que peut-être l'un peut être le complément de l'autre. Le plus beau symbole de fraternité, dans ce sens, c'est le sourd et l'aveugle qui se sont alliés de telle sorte que tout le monde entier leur a été ouvert. Parce que l'aveugle entendait une fourmi marcher dans l'herbe. Bien qu'il fût ou pas qu'il était aveugle. Et le sourd avait une vue perçante et voyait très loin. Et à eux deux, ils étaient invincibles. C'est cela la véritable fraternité. Mais c'est aussi une fraternité qui se fonde sur les différences et pas du tout sur cette prétention icarienne de vouloir que les êtres soient formés dans le même moule, à la même école, pendant 20 ans, de la même façon. Non, bien sûr que non, ce n'est pas une, cette voie rationnelle n'est pas une voie libératrice. Mais plus on approfondit le mythe de vérité, de liberté, le mythe de liberté, plus on s'aperçoit, Adam, par la lecture des prophètes, entre autres, et des grands mystiques depuis 20, 30 ans, je vous en ai cité quelques-uns, plus on s'aperçoit que cette liberté est aussi, est plus exigeante encore que l'amour, et que c'est peut-être pourquoi nous avons tant de peine à concevoir ce que c'est ou ce que ce sera. C'est que l'amour était encore une, ou est très vite devenu, c'est ce qu'il a perdu si vite, enfin 2000 ans, c'est pas très vite pour un homme, mais pour un dieu, ça me semble assez court, moi. En 2000 ans, ce qui a perdu l'amour, c'est que l'amour se donnait, donnait quelque chose à l'homme, donnait une sorte de récompense. Tout se passait comme si Dieu disait, il faut que tu aimes les hommes, il faut que tu m'aimes, il faut que tu aimes, mais tu ne vas pas faire ça pour rien. Ça va être le salut. Je vais te ressusciter, tu vas être le salut, tu vas avoir le paradis au bout des jours. Tu vas avoir le pain, j'apporte le pain aux affamés, le grand mot de tous les sauveurs il y a 2000 ans. Celui qui apporte le pain, et là encore le Christ réalisera, il apportera le pain, mais le pain ce sera lui-même, son propre corps. L'amour c'était énorme, c'était démesuré, mais il y avait cette mesure, le salut au bout. On va fermer la porte un moment, vous entrerez dans le paradis, on fermera la porte sur vous, puis là vous serez bien tranquille, vous repenserez. Tout ce que vous aurez fait pendant votre vie, ben vous l'aurez fait pour ça, pour gagner, pour poser parmi les lyres, les harpes et les petits anges. Bien sûr que le Christ n'a jamais donné cette image d'épinal. Ce n'est pas le Christ que je ridiculise là, c'est ce qu'on en a fait naturellement. Il n'y a rien de tout ça dans l'Évangile, bien sûr. Quand le Christ prêche l'amour, c'est un don illimité, total. C'est seulement sur la croix qu'il dit au bon larron, ce soir tu seras à côté de moi, c'est la seule promesse qu'il donne. Seule promesse certaine. Pour le reste, il a dit, maintenant, c'est ici et maintenant que je nourris les affamés, j'abreuve les assoiffés, et bienheureux les pauvres, et bienheureux les démunis, parce que je suis là, parce que mon Père est là, parce qu'il s'occupera de moi. Ce n'est pas un rêve de paradis, c'est quelque chose de beaucoup plus réel, de beaucoup plus concret qui est à travers tout l'Évangile. Mais enfin, il y avait ça, il y avait le salut, il y avait le pain qu'on donne, il y avait quelque chose qu'on donne à manger aux affamés. Dans la liberté, il me semble qu'il n'y a rien à voir de tout cela. On ne libère pas les hommes pour les sauver. On les libère pour les libérer. On ne ferme aucune porte, on les ouvre à l'infini. On apprend aux hommes à sortir, on apprend aux hommes à s'évader, on apprend aux hommes à poursuivre la vie. On apprend aux hommes à être éternellement dans l'harmonie de l'univers, cette harmonie qui est perpétuel mouvement. C'est-à-dire qu'on apprend aux hommes à être en perpétuel mouvement. Celui qui est possédé du démon de liberté, que ce soit un Garibaldi, c'est-à-dire un libérateur de peuple, que ce soit un libérateur d'esprit comme Nietzsche, que ce soit un libérateur politique comme ceux que je vous ai cités, Marx d'abord et d'autres, ce sont des passionnés qui veulent entraîner avec eux, dans la même passion, l'humanité, plus du tout pour lui donner un asile, plus du tout pour lui donner un paradis, plus du tout pour lui donner du pain, mais pour lui donner la faim. J'ai connu un homme que j'aime, qui vit toujours, que j'aime beaucoup, qui est l'abbé Pierre, qui est le fondateur des chiffonniers d'Emmaüs, qui est un prêtre, qui est un homme du Christ, mais qui est très ouvert à l'esprit, qui est plus ouvert à l'esprit qu'au Christ, et qui a trouvé des choses admirables, d'abord son œuvre elle-même, quand on lui disait, mais enfin, qu'est-ce que vous allez faire de ces pauvres gens, vous allez leur donner à manger, il dit non. Je vais leur donner du travail. Parce qu'il faut qu'ils donnent. Puisqu'ils n'ont rien, il faut qu'ils donnent. S'ils ne donnent pas, ils sont perdus. Et il les a fait ramasser des chiffons, ramasser des trucs qui ensuite ont été donnés, sont devenus des objets qui ont été donnés ou vendus pour aider d'autres pauvres, etc. Il a appris aux pauvres à donner, ce qui est vraiment une œuvre de pur génie de libération. Bien, l'abbé Pierre a inventé cette prière avant le repas. Il ne dit pas « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Il dit « Donnez-nous notre pain quotidien, Seigneur, et notre faim quotidien. » Parce qu'il pense qu'il est beaucoup plus indispensable d'avoir faim que d'avoir du pain. Qu'on peut passer encore une journée sans pain. Ça m'est arrivé, je souhaite que ça soit arrivé à certains d'entre vous, parce que c'est une expérience nécessaire. Mais on ne peut pas passer une journée sans faim. Si vous passez une journée sans faim, c'est plus qu'une journée perdue, c'est une journée atroce. C'est une journée inexistante, c'est une journée diabolique, c'est une journée bourgeoise. Il faut d'abord apprendre la faim. Et le libérateur apprend d'abord la faim. Il apprend aux autres à vivre pour leur pays, pour leur drapeau, pour leur patrie, peu importe, ce n'est pas encore le Dieu n'est pas là. Le Dieu, il apprendra à vivre pour Dieu, c'est-à-dire pour l'univers, pour l'être, pour ce qui est, pour l'humanité entière. Il n'y aura pas besoin de patrie, il n'y aura pas besoin de drapeau, il n'y aura pas besoin de formule toute faite, mais c'est le sens. C'est le sens de cet esprit qui sera le Dieu de demain et qui sera à nouveau l'incarnation dans la présence de ce qu'il y a de plus exigeant dans l'homme. Parce que c'est cela qu'apportent les dieux. Pourquoi quelqu'un me dit tout à l'heure, mais pourquoi est-ce que les hommes croient? Pourquoi depuis des millénaires est-ce que les hommes croient, éprouvent le besoin de croire? Eh bien, parce que croire, c'est cela. Croire, c'est que je suis maintenant ici et pas ailleurs et pas demain et pas... Croire, c'est la seule manière d'échapper à ces démons que sont l'espoir et le regret. Croire, c'est être maintenant ici totalement ce que je suis, c'est devenir ce que je suis. C'est n'avoir plus besoin de passé, ne plus avoir besoin d'avenir, mais ici et maintenant, être libre de boire ou de ne pas boire. En sachant que ce geste que je vais faire, je vais le faire pour l'éternité. Parce que rien n'empêchera plus que j'ai plus cette coupe. Mais avant de la boire, je pouvais ne pas la boire. Et c'est ça la liberté suprême de l'homme. Et cette liberté suprême de l'homme ne peut s'obtenir que dans une sorte de sacrifice total de soi-même à l'instant. Et ce qu'on fait quand on agit. Quand j'ai bu cette goutte d'eau, je me suis donné entièrement à cette goutte d'eau, puisque j'en ai fait de l'éternité. Le saint sauvait les hommes, puisqu'il s'agissait de sauver dans le christianisme, il sauvait les hommes en prenant leurs péchés, et en leur donnant son amour. Dans l'instant, toujours dans l'instant, tout ce qui compte se fait dans l'instant. Ils regardaient, c'était par leur regard que cela se passait, ils prenaient le mal, ils prenaient le fils, ils prenaient la maladie de l'autre, et ils lui transmettaient son amour. Il y avait échange entre le saint et l'autre de quelque chose qui était Dieu même, qui était l'amour même. Demain, ça ne sera pas cela, mais nous savons que dans le présent, ce sera ce sacrifice total, ce don total, non pas pour l'autre, non pas pour que les autres soient plus heureux, non pas pour nourrir les affamés, mais pour se libérer soi-même. Parce qu'on ne peut se libérer qu'en allant jusqu'au bout de soi. Le meilleur symbole de la liberté, depuis des millénaires, c'est l'arbre. Après, ça a été celui qui est sorti de l'arbre Bacchus. Après, ça a été celui qui est sorti de Bacchus Dionysos. Mais c'est toujours le même symbole. C'est celui qui change sans cesse, le nouveau-né, le deux fois né, Dionysos, l'éternel renaissant. Et l'arbre, c'est le symbole parce que l'arbre, c'est ça, c'est quelque chose qui pousse, apparemment pour soi, dans un égoïsme absolu. Il n'y a pas un être sur la terre qui soit plus égoïste apparemment que l'arbre. Il croit pour croître, il s'occupe de rien d'autre. Il n'a pas d'enfant apparent, il n'a pas de famille apparente, il n'a pas d'amis apparents. Il n'a pas les gestes bouleversants qu'ont quelquefois un chat, un chien, même un tigre, avec ses petits. Il n'a pas ce mouvement vers la lumière qu'a la flaire. Il pousse. C'est vraiment le roi, c'est vraiment le roi dans le sens étymologique, celui qui se dresse. Seulement, l'arbre, c'est ce qui donne les feuilles, c'est ce qui donne des fruits, c'est ce qui donne les nids aux oiseaux, c'est ce qui donne l'ombre aux amoureux. C'est ce qui donne l'oxygène sans lequel toute vie s'arrête. C'est l'arbre qui nous fait vivre, littéralement seconde après seconde. Il ne le fait pas pour ça, il le fait pour être. Il devient ce qu'il est. Mais c'est ça, être libre.